je vais passer la parole maintenant à un autre éminent cervantiste. Je veux parler de Michel Monnert, donc professeur à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, hein, bon, qui a consacré sa thèse au Quichotte et de nombreux autres travaux. Je retiendrai par exemple, qui fait d'ailleurs partie de la biographie officielle de Cervantes Conteur. Je me souviens aussi d'un article que j'ai fait connaissance à l'époque où je préparais aussi la question du Quichotte, beaucoup de bruit pour rien. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je lui donne la parole pour une intervention intitulée La mise en texte, du récit de Don Quichotte, texte et paratexte. À toi, Michel, merci beaucoup.
Bien, d'abord, merci à nos collègues et amis qui nous ont invités, Marina Mestre et Philippe Meunier, à qui j'ai laissé apparemment des souvenirs très précis concernant sa jeunesse et sa préparation à l'agrégation. Et puis, bon, ça c'est du paratexte, et maintenant je viens à l'autre paratexte, celui de Cervantes, et je vous dis tout de suite que je n'ai pas de PowerPoint. Est-ce que quelque chose a changé dans cette salle?
Non, tu dois présenter un PowerPoint.
Je dois présenter un PowerPoint. Bon, très bien. Alors, faites comme si c'était là, et puis c'est très bien, ce sont les jeux de l'illusion qui commencent ici, nous sommes au théâtre. Et donc, je vais essayer de jouer mon rôle du mieux que je peux au milieu des clignotants. Aborder un texte en s'arrêtant à son paratexte peut faire craindre le risque d'une certaine superficialité. En réalité, s'agissant de Cervantes, il n'en est rien. Et je crois que déjà, il faudrait citer Jean Caravaggio, Augustin Redondo, qui ont parlé justement des paratextes cervantins, qui en ont parlé longuement. Alors j'en profite, puisque je les cite, pour dire que sur tous les points pratiquement que je vais aborder, et il faudrait les citer. Alors, lo cito a bulto de una vez, ya está hecho. Ya está dicho. Bien. Donc, j'aimerais aussi pouvoir dire que l'auteur du Don Quichotte est le premier à avoir porté la sophistication du paratexte à ce degré. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y en avait déjà d'autres qui avaient ouvert le chemin, et non des moindres. Et ils étaient nombreux en Espagne à cette époque-là, en ce début du XVIIe siècle absolument prodigieux, à jouer avec le paratexte, enfin, à s'amuser avec. Une chose est certaine, c'est que pour ce qui le concerne, Cervantes avait parfaitement conscience des possibilités qu'offraient ces espaces périphériques et il avait compris d'emblée tout le parti que l'on pouvait en tirer. À preuve, s'il en fallait, le paratexte hyper sophistiqué du Don Quichotte, de la première partie du Don Quichotte, j'y reviendrai. À preuve aussi, et sur ce point peut-être, Cervantes s'est montré beaucoup plus novateur, ces dispositifs d'encadrement qu'il se plaît à mettre à la périphérie des récits incidents et qui présentent toutes les caractéristiques d'un paratexte, mais qui n'en ont pas obtenu le statut aux yeux des poéticiens. Exemple dénoncé à caractère paratextuel parmi les plus flagrants, les deux discours de Don Quichotte, l'un sur l'âge d'or, l'autre sur les armes et les lettres, qui servent respectivement de prologue, et je dis bien de prologue, à l'épisode pastoral de Marcela y Grisostomo et à l'histoire du captif. Alors je dis bien de prologue parce que dans le texte, on a donc arenga et preambulo, or ces deux mots sont synonymes de prologue. Autrement dit, il y a là suffisamment d'indices pour inciter fortement à rattacher ces deux discours au paratexte, à une forme d'écriture paratextuelle, n'en déplaise à certains puristes, parce qu'évidemment, les catégories, là, dès qu'on commence à y toucher, c'est un peu comme le budget de l'État. Ça va dans tous les sens et ça suscite des réactions. Donc, rattacher ces ces cadres, ces encadrements à une forme d'écriture paratextuelle et peut-être leur conférer ce statut de paratexte qui leur a été refusé. C'est ce que j'ai fait récemment. Mais pourquoi ? Je l'ai fait à propos du récit du captif, où j'ai proposé d'étiqueter l'encadrement du récit du captif, le cadre, le marco, sous la rubrique paratexte verbal. Alors bon, je ne vais pas me battre pour défendre l'étiquette, on peut en faire ce qu'on en veut. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on considère les différents énoncés qui rentrent dans le cadre comme un paratexte, ça change la donne. Je veux dire par là qu'on ne lit plus l'histoire du captif quand on considère le cadre comme un paratexte ou quand on se contente de prendre les différents énoncés qui sont dispersés un peu comme ça. Lorsqu'ils sont structurés, ils ont un impact et ils changent notre lecture de l'histoire du captif. Un exemple de choc, par exemple, je vais vous raconter une histoire vraie. Il était une fois, voilà. Quand vous avez ce genre de choc, ben, évidemment, en tant que lecteur ou auditeur, vous réagissez, vous sentez qu'il y a une contradiction, un paradoxe, et vous vous mettez à penser à ce qui se dit, et non pas à vous laisser porter par le texte. Alors sans doute, le paratexte du récit du captif est très riche, mais le récit du captif lui-même est très riche, donc on peut se dire que c'est un accident. Mais justement, je me suis posé la question et j'ai constaté que ce n'était pas vraiment le cas. C'est vrai qu'il est exceptionnel, mais les autres récits intercalés présentent, enfin les encadrements des autres récits intercalés présentent les mêmes caractéristiques. On peut y retrouver les mêmes caractéristiques. Disons que ces dispositifs ne sont pas de simples lubrifiants destinés à faciliter les enchaînements des récits. Ils sont, à partir du moment où on les reconnaît comme paratextes, il joue un rôle important dans la prise de contrôle de la réception de ces récits. D'un point de vue narratologique, il se caractérise par la mise en œuvre de stratégies narratives et discursives que leur caractère récurrent permet de distinguer, de classer selon deux catégories parfaitement symétriques selon les faits recherchés. Alors peut-être une simplification abusive, mais réfléchissez-y. D'une part, les procédés qui visent à provoquer l'empathie, à créer une tension narrative qui fait que le lecteur s'accroche. Et d'autre part, les procédés qui visent au contraire à rompre cette empathie, à casser, afin d'amener le lecteur à prendre ses distances. Dans le premier cas, le procédé le plus fréquemment utilisé consiste à générer une tension narrative à la périphérie du récit en faisant peser une menace sur sa viabilité. C'est ce que Roland Barthes pensait peut-être à Cervantes en évoquant la menace d'une séquence inaccomplie. Bon, c'est ce qui se passe effectivement lorsque on se trouve face à ces récits intercalés, c'est qu'on ne sait pas si ils vont aller jusqu'au bout. Dans le second cas, recherche d'un effet de distanciation, les procédés sont plus diversifiés, sachant qu'ils ont principalement pour but d'amener le lecteur à douter de la fiabilité du conteur et ou des événements rapportés. On voit ainsi comment l'auteur se donne les moyens de prendre le contrôle de la réception des récits intercalés et de manipuler les expectatives lectorielles en jouant en quelque sorte à tira y afloja. Une fois, il nous accroche, et une autre fois, au contraire, il nous décroche, il nous invite à décrocher. Et donc, il assure cette stratégie à partir de ces encadrements que je vous propose, si vous voulez bien me passer l'expression, d'appeler paratexte verbal, en attendant mieux. Alors là-dessus, donc, je vais essayer de vous présenter ces deux versants que l'on trouve dans le paratexte verbal, celui qui concerne la manipulation des émotions, et celui, au contraire, qui s'adresse à la raison. Voilà, ce sont deux systèmes différents. Alors, sur le premier versant, manipulation des émotions, contrôle de l'empathie, on pourrait, là aussi, je pense que je simplifie probablement, on pourrait distinguer trois niveaux. Un premier niveau, la situation de récit est précaire. C'est-à-dire que le récit peut être interrompu à tout moment. Il y a une simple menace sur la viabilité du récit. C'est le récit de Cardenio et de Dorothea, par exemple, les deux récits dans la première partie de Don Quichotte. Un deuxième niveau de tension narrative serait une situation de récit dangereuse. C'est-à-dire que là, non seulement le récit risque d'être interrompu, mais en plus, il y a une menace imminente sur la vie ou l'intégrité physique du conteur. Alors ça, on est avec Anna Félix au chapitre 63 de la deuxième partie, et qui raconte avec la corde au cou. On est sur le point de la pendre. Bon, et le troisième niveau, c'est on pourrait s'attendre à ce qu'on ait, après une situation de récit précaire, une situation de récit dangereuse, on pourrait aussi attendre une situation de récit effrayante. Et là, on serait sur une autre catégorie générique. Dans la première catégorie, on est plutôt dans la nouvelle ou le roman sentimental, un récit précaire, donc ça va s'arrêter. Dans la deuxième catégorie, situation de récit dangereuse, on serait plutôt dans le récit d'aventure. Et dans la troisième catégorie, on se retrouve face à un genre qui est très présent dans les miscellanées de l'époque, qui est le récit d'épouvante, les histoires de fantômes, etc. En fait, tout ce qui est lié au nocturne, un peu turbulent et inquiétant. Sauf que, dans Don Quichotte, il n'y a rien de tel. Dans cette troisième catégorie, on ne trouve pratiquement pas de récits intercalés, qui seraient liés donc aux ténèbres inquiétantes. On les trouve par contre, dans la fable, dans les épisodes quichotesques, où il y a pas mal de petites lumières qui s'allument dans la nuit, on s'inquiète de ce qui va se passer. Et surtout, le cas le plus emblématique, c'est l'épisode des Batanes, où on croit vraiment qu'on a affaire à une histoire de fantôme, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, ce n'est rien. Bref, dans ces cas-là, on voit que les histoires qui sont censées faire dresser les cheveux sur la tête, eh bien, on n'en trouve pas. L'effet qui est recherché en réalité, ce n'est pas tant de provoquer l'effroi que le rire ou le sourire. On a quelques rares récits intercalés, comme celui du cavalier de la mosquée, qui dans l'obscurité raconte, alors en plus on a une paralypse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est ce cavalier de la mosquée ou de los espejos, et on est là dans l'attente effectivement de quelque chose. Mais on n'est pas vraiment inquiet, on voit bien qu'il raconte des salades, et on ne va pas se faire trop de soucis, et effectivement, il n'y a pas trop de soucis à se faire, encore que l'épisode aurait pu tourner mal. Alors, bon, là, je suis passé peut-être un peu rapidement, et avec ces simplifications, ces catégorisations. Sur le second versant, les choses sont plus compliquées, plus riches, plus intéressantes, et je vais essayer de vous amener de ce second versant jusqu'à une mise en question de l'ensemble des paratextes, et peut-être aussi une problématique qui va au-delà. Alors j'ai bien conscience que tout cela est un peu théorique, aride, etc. On n'est pas dans la chair, dans la pâte du texte cervantin. Ce matin, c'était un plaisir d'écouter les citations de Don Quichotte. Enfin, on riait là-haut. Bon, voilà. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous offrir ça, parce que je n'ai pas assez de temps. Et donc, il faut accepter de me suivre sur ce chemin un peu ardu du paratexte. Voilà, second versant, donc, il s'agit de mettre à distance, hein, il s'agit de s'adresser non plus aux émotions, non plus d'accrocher le lecteur, mais au contraire, lui dire, allez, prends tes distances. Alors, dans le droit fil de la stratégie de détournement à laquelle on vient d'assister, c'est-à-dire une histoire d'épouvante qui se transforme en histoire drôle, donc la tension narrative tombe au degré zéro, au-delà de ces procédés, donc, qui sont des procédés de dérision, on va trouver, plus généralement, sur ce second versant, des stratégies de disqualification qui visent, de façon plus ou moins ouverte ou subreptice, à générer le scepticisme et jusqu'à l'incrédulité du lecteur, au détriment donc de l'empathie. Voyons comment ces procédés de disqualification, de réassignation à un autre genre, de l'histoire qui vient d'être racontée ou qui va être racontée, voyons comment il se présente. Parmi ces procédés Donc ils vont de la diatribe réfutatio à la simple allusion. Il en est un qui se détache et qui mérite que l'on s'y arrête, et je vais donc m'y arrêter, c'est l'obscurité. On a failli l'avoir tout à l'heure. L'obscurité qui est tout à la fois une figure de la rhétorique classique, obscuritas, qui désigne l'absence de clarté, perspicuitas, mais aussi un processus d'écriture et un motif littéraire, au demeurant répertorié dans le motif index de Steve Thompson et Darkness, bien sûr, et que l'on retrouve avec une fréquence significative dans le paratexte verbal, mais pas seulement, j'y reviendrai. Cette obscurité, plus ou moins hermétique, peut se présenter sous différentes formes, depuis le brouillage du sens, a priori déchiffrable, jusqu'à l'absence totale de clarté, jusqu'aux ténèbres les plus impénétrables, jusqu'au côté obscur, si vous voulez. Enfin, il s'agit plutôt dans ce cas d'une forme d'espièglerie parmi toutes celles dont l'auteur est coutumier. Disons qu'il lui arrive d'éteindre la lumière et de laisser son lecteur avancer à tâtons dans le noir. Donc, il s'amuse un peu avec nous, avec notre désarroi. Et en quoi cela relève-t-il d'un procédé de distanciation ? Ben, c'est quasiment évident. Mais enfin, je voudrais quand même rappeler que l'obscurité présente un certain nombre de caractéristiques. Le monde de la nuit n'est pas seulement celui des ténèbres avec les fantômes, etc. C'est de façon plus banale le fait que on n'est pas dans l'obscurité, nos capacités d'appréhension du réel sont diminuées, fortement diminuées, qu'il y a risque d'erreur et même donc on se retrouve dans une situation où évidemment les récits ou les témoignages qui peuvent être associés à l'obscurité sont nécessairement perçus comme d'un degré de fiabilité moindre. Hein. Quelqu'un qui vous dit il faisait nuit, tout ça, puis mais j'ai quand même bien reconnu l'assassin. Bon, mais évidemment, si c'était en plein jour, c'est plus facile de le croire qu'en pleine nuit. Voilà. Donc, il y a ce simple fait qui fait que dans le noir, on peut aussi bien prendre un chat pour un lièvre, ou bien une outre de vin pour un cambrioleur. C'est appulé l'un de l'autre. De surcroît, dans le monde nocturne a pour corollaire immédiat le sommeil. Le sommeil qui lui-même est indissolublement lié au rêve. Et donc, dans le rêve, on sait aussi qu'une outre de vin peut se changer en géant. Chapitre 35, la première partie, Don Quichotte qui se bat contre les outres de vin. Soit autant de facteurs aggravants qui sont propres à engendrer le doute et le scepticisme sur la nature des faits rapportés en pareilles circonstances. Sont-ils avérés ou réels, ou sont-ils avérés ou rêvés, réels ou fantasmés ? Bon, voilà la question qui se pose. Et on peut en dire autant du monde souterrain, qui est connu pour abriter dans ses ténèbres le royaume des morts, et qui n'a rien à envier de ce point de vue au monde nocturne à ciel ouvert. D'autant qu'au-delà des fantasmagories d'outre-tombe et de la mythologie des enfers, on trouve aussi, dans ce monde des ténèbres souterraines, on trouve aussi tout un imaginaire qui est précisément cet imaginaire débridé des romans de chevalerie que l'auteur de Don Quichotte prend pour cible. Moyennant quoi, on comprend peut-être pourquoi Cervantes n'a pas tiré parti de l'obscurité pour développer des récits anxiogènes, façon histoire de revenant, et qu'il a plutôt gardé ce contexte-là pour utiliser la capacité du monde des ténèbres à susciter le scepticisme, l'incrédulité, le doute, pour obtenir donc des effets de distanciation. Alors vous me voyez peut-être venir, là, le meilleur exemple de ce type de situation et de recherche d'effets de distanciation, c'est l'épisode de l'aventure de la Cueva de Montesinos, donc une sorte de voyage onirique, on va mettre des guillemets oniriques, il y a des doutes à ce sujet. On est au chapitre 23 de la seconde partie, et on voit bien que l'imaginaire qui est présent dans cette caverne est surtout tributaire des romans de chevalerie, on voit d'où il vient, et il est surtout de nature à faire douter de la parole du protagoniste. Mais enfin, on va laisser ça de côté parce que c'est vraiment un problème un peu particulier. Une chose est certaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui gobe parfaitement tout ce que raconte Don Quichotte. Ce quelqu'un, c'est le cousin, avec un C majuscule, puisqu'il est désigné dans le texte comme le cousin, mais bon, on ne connaît pas son nom. On est avec les anonymes dont parlait Pedro Ruiz ce matin. Et humaniste de profession et grand amateur de romans de chevalerie. Alors lui, il croit parfaitement tout ce que raconte Don Quichotte. Alors j'en profite pour essayer aussi de penser à vous en tant que agrégatif. Hein. Et donc, j'ai essayé de glisser quelques petites remarques qui ne sont pas forcément dans le droit fil de mon sujet, mais qui peuvent vous être utiles, comme disait ce matin Pedro Ruiz, non pas pour fixer des vérités définitives, mais ouvrir des pistes de réflexion. Alors, à ce sujet-là, sur le primo, le cousin humaniste, je voudrais dire que chez Cervantes, les personnages sont comme disposés sur un clavier. Et il y a une touche, puis tout d'un coup, il y a un écho un petit peu plus loin. Alors, le cousin humaniste, il est déjà apparu dans la première partie, avec quelqu'un aussi qui croit dur comme fer à la vérité des romans de chevalerie, et c'est l'aubergiste. En plus, ça rime, donc c'est facile à retenir. Hein. Aubergiste, humaniste, avec, là, vous les mettez en rapport. De la même façon qu'il faut mettre en rapport, je vous parlais tout à l'heure d'Anna Félix qui est sur le point d'être exécutée. Et un peu avant, il y a une autre dame qui raconte une histoire dans un contexte un peu difficile, c'est Claudia Geronima. Alors Claudia Geronima, c'est celle qui tue son amant. Anna Félix, c'est celle qui sauve son amant. Vous voyez, ça, on joue beaucoup comme ça. Et Cardenio, dans le récit de Cardenio, il y a un interrupteur qui va être Don Quichotte, c'est Don Quichotte qui va couper le récit. Et dans le récit de Dorothée, Cardenio est présent, et on sait que c'est un interrupteur. Et on s'attend à ce qu'il interrompe, à ce qu'il coupe le récit. Mais non, il ne va pas le faire. Mais par contre, le narrateur prend bien soin à plusieurs reprises de dire qu'il montre que les larmes lui viennent aux yeux, qu'il fronce les sourcils. Enfin, bref, on nous menace d'une interruption. Et donc là, vous avez un personnage qui est narrateur dans un chapitre et qui devient auditeur dans l'autre. Et donc, c'est par ce jeu de corrélation de prolepse et d'analepse que les personnages se mettent en place sur un dispositif qui est très, très intéressant à observer et qui est tout sauf évidemment improvisé. Bon, le fait est que après cet humaniste là et cette il y a dans le paratexte, pardon, le contact avec l'humaniste se fait dans le paratexte de la Cueva Montesinos, et dans ce paratexte, eh bien, il y a une remarque de Don Quichotte que beaucoup de cervantistes, enfin que tous les cervantistes, se devraient de méditer, hein, c'est que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que después de sabidas y averiguadas no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria.
Il avait recherché d'origine.
Oui. Alors, donc, les ténèbres de la caverne de Montesinos, je pense que je peux résumer là un petit peu, parce que là, alors, c'est pas seulement Jean Caravaggio et Auguste Redondo, c'est tous les cervantistes, j'imagine un dessinateur humoristique qui mettrait les cervantistes en file indienne avec chacun un casque de spéléologue sous le bras, et Camino de la Cueva Montesinos, parce que tout le monde y est descendu, chacun est allé y chercher ce qu'il avait l'impression qu'il trouverait, et chacun a ramené évidemment quelque chose. Bon, donc parmi tous ces cervantistes présents ici, hein, tout le monde ici, je crois, tout, lo has dicho, non? Non, non, c'est bajado la cueva. Bon, alors tous les cervantistes, sauf Martin Moran, tous les cervantistes présents ici, sont...
Mais je vais le faire ce soir.
D'accord. Sont allés faire cette visite à la cueva, et parmi eux, Aurora Ejido a réalisé une série d'études qu'elle a regroupées dans Cervantes y las puertas del sueño, où bon, elle résume un peu, enfin, fait une synthèse de tout ça, et pour elle, pas de doute, la caverne, la figure de la caverne, hein, toutes les cavernes, parce qu'elle a pris tous les avatars de la caverne dans leur synthèse, la figure de la caverne, c'est tout simplement un lieu emblématique où Cervantes pose une réflexion sur, l'invention littéraire et une réflexion qui s'inscrit dans le droit fil de la critique érasmisante, ou érasmienne même, du monde de l'outre-tombe, la littérature lucianesque, etc. Bon, bref, il s'agit de dire au lecteur, ben, tout ça, vous voyez, tout ça, ce sont des fables, ne vous laissez pas prendre à cette littérature-là. Bon, sauf que une petite rectification par rapport à ce que dit Aurora Ejido, qui parle donc de la figure de la caverne, je ferai observer que c'est pas dans la Cueva de Montesinos. Ce n'est pas tellement la figure de la caverne qui joue le rôle de signal, hein, de feu clignotant pour dire « Ojo, attention, ici c'est… » Ce sont les ténèbres, c'est l'obscurité. En effet, Don Quichotte ne descend pas, hein, dans la caverne. Il s'arrête à quelques encablures de l'orée de la grotte et il s'assied sur un rouleau de corde, voilà, cette fameuse corde qui aurait dû l'amener jusqu'au plus profond. Et là, il s'assied et bon, il s'endort. Voilà, il s'endort, d'où l'idée que peut-être il a rêvé. Mais ce qui est certain, du coup, c'est que l'imaginaire de son voyage trouve son origine non pas dans la caverne, mais dans les replis du monde du sommeil, du monde onirique, dans la tradition du somnium et insomnium. De ce point de vue, l'expérience de Don Quichotte dans la caverne est semblable à de nombreux autres récits où on raconte des histoires, mais ensuite on s'aperçoit que c'est un rêve, enfin, etc. Donc on est plutôt dans un imaginaire qui est celui engendré par l'obscurité de la nuit et ou l'obscurité souterraine, mais qui vient plutôt des arcanes du rêve et du sommeil que de la figure de la caverne. En tout cas, ils ne sont pas nécessairement reliés à la figure de la caverne, même si ça arrive parfois. Donc, on peut se passer de la figure de la caverne, si vous voulez bien, mais on ne peut pas se passer de l'obscurité. Chaque fois, il y a l'obscurité. La figure de l'obscuritas, c'est elle qui est convoquée et mise en œuvre sous ses différents avatars dans les coulisses du paratexte cervantin, où il n'est pas rare de retrouver ce même point d'ancrage dans un imaginaire ténébreux. Je crois que ce que disait aussi un peu ce matin Pedro Ruiz au propos de ces anonymats, ces choses obscures, ces choses mystérieuses, ces choses cachées, eh bien on est dans cet imaginaire ténébreux qui assigne au lecteur la nécessité de ne pas se laisser abuser et que l'on peut résumer ainsi. Plus il fait noir, plus il convient d'ouvrir les yeux. Voilà. Alors, gageons que le paratexte ne va pas manquer d'amuser Cervantes. Quant au lecteur, on peut penser qu'il aura reçu le message et compris qu'il y avait nécessité pour lui de pénétrer d'une certaine façon ces ténèbres que l'auteur se plaît à convoquer ici et là au seuil de ses récits, qu'ils soient grands ou petits. Et on va voir, ce ne sont pas seulement les récits intercalés, mais les grands récits qui sont concernés par cette figure de l'obscurité qui est une sorte d'avertissement au lecteur. Et donc je vais faire un bref retour sur le paratexte initial du Don Quichotte de 1605, et vous allez pouvoir constater que tout y a été fait pour plonger le lecteur dans l'obscurité. En fait, vous allez constater, je vais résumer rapidement, là, hein, vous prenez la portada, déjà pour commencer, vous avez un nuage, sortant des nuages, un bras. Bon, qui est dans le nuage, on ne sait pas. Sur ce bras, c'est plutôt sur le point qui est au bout de ce bras, il y a un faucon avec les yeux bandés. Ensuite, à l'arrière-plan, on a un lion avec les yeux fermés. Puis, on a une devise qui nous dit « Spero lucem post tenebras ». Bien sûr, on peut l'interpréter de façon très différente, mais n'empêche que bon, on voit s'accumuler toutes ces ténèbres, toute cette obscurité, tous ces bandeaux sur les yeux qu'il faudra enlever, bien sûr. Et puis, si on continue, alors pour moi, le paratexte, c'est quelque chose de très élastique, surtout chez Cervantes. Ça peut aller jusqu'au chapitre 8, hein, au moment où justement, le récit s'interrompt et on trouve une deuxième portada, hein, qui est l'image qui représente Sancho, avec de longues jambes d'ailleurs, c'est très curieux, mais enfin, bon, je ferme cette parenthèse. Et donc, on se retrouve au-delà du point d'incipit, avec, déjà dans le prologue, avec un auteur qui est peut-être Padrastro, on en parlait ce matin, avec de multiples auteurs, un lieu de naissance inconnu, des cuyo nombre non me accordo. Pour finir, un manuscrit en langue arabe trouvé chez un brocanteur dont on ne sait pas très bien d'où il vient, évidemment, en langue arabe, il faut le traduire pour le comprendre, parce qu'il est inintelligible. Donc on voit bien une concentration de motifs autour de l'idée de l'obscurité, mais l'obscurité au sens de l'hermétisme, quasiment, hein, d'une difficulté à pénétrer le texte. En même temps, c'est vrai que cette insistance à convoquer l'obscurité au seuil du récit peut être lue de façon très différente dans une société où la question des origines, on le rappelait ce matin encore avec Pedro Luis, est particulièrement sensible. Et on n'ignore pas que le nom même de la Mancha n'est pas très clair de ce point de vue. Hein, disons qu'il fait tache dans les pédigrés. Bon, cela dit, aucune de ces lectures divergentes, n'est incompatible avec l'idée que je propose, et qui est que tout cela pourrait n'être, ne serait à tout prendre, qu'un énorme clin d'œil, ou, si l'on préfère, une sorte de portique, où l'auteur aurait accroché sous de multiples formes cet avertissement répété au lecteur: ojo, soyez vigilant, ouvrez les yeux. Vous qui entrez ici, perdez toute innocence. Bref, il n'y a pas d'inconvénient à interpréter le dispositif comme une forme, évidemment très sophistiquée, d'avertissement préalable. D'autant que le Quichotte de 1605, dans le prologue du Quichotte de 1605, on a un avertissement, qui est plus qu'un avertissement, c'est la fameuse charge contre le roman de chevalerie. Et là, du coup, bon, on va chercher un peu les explications de tout cela, hein. On va voir pourquoi il y a toutes ces obscurités, pourquoi il y a tous ces clins d'œil, pourquoi il y a toutes ces invitations à enlever le bandeau sur les yeux. Tiens, ça me fait penser à Sancho sur Clavileño, qui lui aussi enlève le bandeau. Bon, mais bref, revenons au paratexte de 1605, et qu'est-ce que c'est que cette charge à l'encontre du roman de chevalerie? Faut-il la prendre au pied de la lettre, verser cette pièce au dossier du débat poétique ravivé par la publication de la Philosophia Antigua Poetica? Et, bon, c'est les avis sur ce point, comme tant d'autres, sont partagés. Récemment encore, Marina Mestre parlait, je crois, hein, de la Philosophia Antigua Poetica, et elle était sur ce débat, sur le terrain du poétique. Bon, ce qui est certain, c'est que c'est une question sérieuse. Contrairement à ce qu'on dit certains, bon, ils s'amusent, etc., le roman de chevalerie. Non, c'est une question sérieuse. Pourquoi? Parce que le ciblage du roman de chevalerie dans le prologue de 1605 apparaît comme un cap qui est fixé dès le départ et qui n'a jamais varié. Une constante qui ne s'est jamais démentie jusqu'à la toute dernière extrémité, je veux dire la dernière phrase écrite par Sidi Hamet Evenengeli dans le chapitre 74 de la deuxième partie. Donc il faut se poser la question, pourquoi cette insistance? Bon, alors là j'avais des choses à vous dire, mais comme José Manuel Martín Morán, j'ai choisi de couper pour essayer de... Mais je ne sais plus où j'en suis là. Je suis loin, j'ai beaucoup de temps, j'ai peu de temps, très peu certainement. Bon, alors, je dirais que... Combien?
Quelques minutes.
Bon, il va falloir quand même que je... Alors, à grandes enjambées, je vais essayer de vous faire parcourir le reste de mon propos. Bon, sur le débat poétique, je crois que la critique cervantine, on en a vraiment parlé, on l'a ressassé jusqu'à plus soif. Par contre, il y a un versant qui a été, lui, minoré, complètement minoré, c'est le contexte historique dans lequel ce débat s'est déroulé. Et là, bon, ben, je vous signalerai juste que au moment où ce débat se déroule, donc, sur le terrain du poétique, dans les cercles des lettrés, il se passe en Espagne quelque chose d'énorme, une vague de falsifications sans précédent qui affecte la péninsule avec des, des fabrications à grande échelle de fosses chroniques, avec de pseudo-vestiges qu'on enterrait la veille et qu'on déterrait le matin, dont on faisait commerce, et on disait, ouais, regarde, enfin, si vous, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Et le tout destiné pour l'essentiel, à exalter les racines chrétiennes de la péninsule, afin d'y recouvrir les traces de la présence musulmane. Enfin, bref, il fallait retrouver une Espagne de race blanche aux racines chrétiennes. Enfin, je pense que... Voilà. Parmi ces manipulations plus ou moins lucratives, la plus ébouriffante, c'est l'affaire des livres de plomb de Grenade. En fait, il y a deux affaires, un manuscrit trouvé dans une boîte en plomb et ensuite des planches de plomb recouvertes de caractères arabes qui ont été trouvées à la suite d'excavations ordonnées dans des cuevas de ce qui ne s'appelait pas encore le Sacromonte, mais qui est devenu précisément parce qu'on y a trouvé ces planches de plomb. Bon, donc tout ceci a eu un retentissement énorme, ça a duré, il a fallu pratiquement un siècle, à quelques années près, pour que le Vatican dise non, écoutez, tout ça, ce sont des faux. Par contre, les reliques qu'on a trouvées à côté, c'est vrai. Bon, en fait, parce qu'il y avait tellement de processions, tellement d'enjeux de toutes sortes, qu'il fallait bien faire des concessions aux Grenadins. Bon, ce que je voulais dire, c'est que... Oui, cet aspect-là était un peu minoré. Il y a un article fondateur d'Américo Castro. Et j'ai pu constater que dans l'édition de 1998 de Vico, la première, il est là, en bonne place. Par contre, dans l'édition de 2015, il est passé à la trappe. Du moins, il est passé à la trappe sur un chapitre, qui est le chapitre 32 de la première partie, où il est question des romans de chevalerie. Parce que justement, ce qu'il convient de faire, c'est le lien entre les romans de chevalerie, l'entreprise de Cervantes lorsqu'il cible les romans de chevalerie, et cette affaire qui est survenue à Grenade, contre laquelle on ne pouvait rien dire. Le roi était pour, l'archevêque, les deux archevêques de Grenade étaient pour, tout le clergé de Grenade, évidemment, et puis d'une façon générale, bon, l'Espagne était pour, parce que ces documents apportaient la preuve que Saint-Jacques était bienvenu évangéliser l'Espagne et que les reliques que l'on trouvait dans le Sacrement, c'était celles de ses compagnons, donc, de ses disciples. Bon, et dans ce chapitre 32 là, de l'édition de 95, donc, j'observe aussi que le titre courant a changé. On avait Literatura, Historia y Ficción. Ça reflétait assez bien. Justement, il y avait Historia pour le moment. Et là, c'est devenu Los Libros de Caballerías. C'est-à-dire que je vois une tendance qui se dessine, et cette tendance, je l'ai observée également dans d'autres articles où il y a un commentaire du chapitre 32, et bon, on est sur la poétique, mais pas d'allusion aux fausses chroniques. Alors, la poétique, ça veut dire qu'il y a trois catégories de textes, la historia verdadera, la historia de afición, et la historia fingida. Je pense qu'il y a une quatrième catégorie qui concerne les falsifications de l'histoire officielle. Ce n'est pas la même chose que la historia fingida. D'ailleurs, la historia fingida, on met sous ce vocable les romans de chevalerie. Et falsification de l'histoire, ce n'est pas du tout le même tabac. Donc, je crois que là, on a affaire à un manque qu'il faudrait rétablir. Et d'autant plus que les artisans de cette... parce que ce sont évidemment ces falsifications de Grenade, là, c'est... Les artisans sont notamment un certain Miguel de Luna, qui a écrit une Historia Verdadera del Rey Don Rodrigo, et laquelle a inspiré un certain Lope de Vega, très ami, très copain avec Cervantes, et il lui a inspiré El Último Godo, ou El Postrer Godo de España. Et bon, voilà, je crois qu'il y a là suffisamment d'indices pour penser que la quatrième catégorie, là, les récits de fausses. Et des récits considérés comme fausses chroniques est une catégorie à réintroduire en même temps que le contexte historique dans lequel se déroule le débat poétique. Bref, il faudrait sortir d'une lecture un peu réductrice, donner au texte toute sa dimension. Les jeux paratextuels de Cervantes ne relevaient pas nécessairement de son humeur folâtre, de son intention, ou de son intention d'aller rompre une lance en faveur d'Aristote dans un débat académique hors sol. Il y avait autre chose derrière. Alors, petite apostille quand même, là, au passage. À bien des égards, le Don Quichotte peut être lu comme une entreprise de restitution du folklore. Au folklore, et parce que de nombreux récits et légendes sont, comme vous le savez, ont été cléricalisés. Et si vous grattez un peu dans le Don Quichotte, vous verrez que la plupart de ces récits cléricalisés font l'objet d'une relecture de la part de Cervantes. Il y a une restitution au folklore. Et en ce sens, je crois qu'Avellaneda, ami de Lope, il faut conclure, Avellaneda, ami de Lope et lui-même homme d'église, ne s'était pas trompé, donc, puisque en fait il essaye de détourner à son tour le Don Quichotte, de le faire rentrer dans le rang, à grand renfort de légende de Marial et de Flos Sanctorum. Alors je suis obligé quand même, là je conclue, on revient sur les paratextes, le paratexte au sens académique du texte, du mot, pardon, paratexte au sens académique du mot, ce qui est un peu perturbando. C'est que, exception faite de la Galatée, écoutez ça, exception faite de la Galatée, qui est, bon, un peu externe par rapport au corpus, au bloc Cervantes du corpus, et qui est antérieure à l'affaire des fausses chroniques de Granada, l'obscurité est une constante dans chacun des grands paratextes et des grandes œuvres de Cervantes. Je veux dire, non seulement dans le Don Quichotte de 1605, on l'a vu, mais aussi dans le Persiles, où l'obscurité initiale est associée à la figure de la caverne, puisqu'il y a le protagoniste qui sort de l'obscurité d'une masmorra, d'une basse fosse, et qui, au milieu d'un flot de paroles incompréhensibles, mais aussi, et là c'est moins évident, et pourtant c'est tellement clair, aussi dans les nouvelles exemplaires. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'obscurité au début des nouvelles exemplaires. Non, ce n'est pas au début, mais c'est à la fin. Parce que, comme l'a montré Léo Spitzer, Cervantes nous a joué ce tour, au lieu de mettre le prologue cadre des nouvelles au début, il l'a mis à la fin. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a deux nouvelles emboîtées, dont une, El Casamiento Engañoso, qui va servir de charnière, de prologue cadre à celle qui suit, le Coloquio de los Perros, et par extension à tout le recueil. Or, le passage se fait comment? Dans la nuit. Dans la nuit, et avec tous les doutes qu'il y a évidemment autour. Autrement dit, l'incroyable dialogue des chiens est issu d'une incroyable nuit d'hôpital. Dernière ligne. Et bon, je crois qu'on peut voir dans ce souci de Cervantes de confronter son lecteur aux obscurités du paratexte, la mise en œuvre d'un principe qui pourrait être la clé de voûte de sa poétique. Alors j'allais dire « no vender gato por liebre », mais non, je crois que c'est plutôt « mostrar con propiedad un desatino hein, ». Si il définit sa poétique ainsi dans le Viaje del Parnaso. « Mostrar con propiedad », ça veut dire mettre entre les mains du lecteur un texte en faisant en sorte qu'il ne tombe pas dans les pièges de la fiction et en faisant en sorte aussi qu'il sache lire tous ces pièges qui se trouvent dans l'Espagne de cette fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Voilà. Je vous remercie et pardon à la message que vous avez.